Comme on le fait chaque lundi, on s'entretient maintenant avec Louis-Jean, animateur à TVA Sports. Salut Louis!
Salut Dan, comment ça va?
Ça va bien toi?
Ça va bien, ça va bien. J'ai vu que tu t'as acheté un beau billet, tu étais extrêmement bien placé et tu as eu tout un spectacle, mon cher, samedi. Ça a été tout un match de hockey.
Tu sais quoi, Louis, j'aurais pas fait le voyage cinq fois jusque sur l'avenue des Canadiens de Montréal. On disait de la Gauchetière à une certaine époque, mais on a rebaptisé ça la rue des Canadiens. J'aurais pas fait le voyage si ça avait été Buffalo, la Caroline ou même, je sais pas, le Wild du Minnesota. Mais parce qu'Austin Matthews est en ville, je me suis dit, OK, j'ai décidé ça à 13h30. Je suis embarqué dans l'auto, j'ai mis de l'essence, puis j'ai dit, je me paye ce petit trip-là. Puis j'ai adoré mon samedi. Le Canadien a assez bien joué pour gagner, mais n'a pas gagné.
Le Canadien a mieux joué que les Maple Leafs. Moi, je veux dire, écoute, selon moi, le Canadien méritait de gagner. Le Canadien s'est battu,
oui.
Mais le Canadien a perdu à cause que Carey Price a été mauvais. Et Carey Price n'a pas été à la hauteur de ce que un gars qu'on dit être le meilleur gardien de but au monde. Il est supposé jouer mieux qu'il l'a fait. Selon moi,
oui.
Premier match de la saison, il a été très bon. Donc, il sort de Buffalo. Et après ça, si tu regardes chaque match depuis, ça a été plus difficile. C'est drôle, parce que là, on pose des questions. Qu'est-ce qui se passe avec Carey Price? C'est-tu parce que c'est le défensif? C'est-tu à cause de... C'est-tu l'impression du gros contrat? T'sais, c'est normal. C'est des choses qui arrivent. Rappelle-toi, Sidney Crosby, il y a quelques années, quand Mike Gentile a été congédié au mois de décembre. Sidney Crosby était mauvais en octobre. Sidney Crosby était mauvais en novembre, tellement qu'on disait, est-ce que c'est soudainement le temps qu'il l'a rattrapé? Est-ce qu'il a vieilli? Est-ce qu'il a perdu le feu sacré? Est-ce qu'il a peur d'aller dans le trafic? C'est quoi le problème avec Sidney Crosby? C'est simple, il avait perdu sa confiance. Et là, je me pose la question, à la suite du match de samedi, où Carey Price aurait pu faire la différence, pas en sauvant les mêmes. Moi, je pensais que Carey Price avait besoin de voler le match. Il ne l'a pas volé, il l'a échappé. Il n'avait pas besoin de le voler parce que l'équipe avait suffisamment bien joué devant lui. Moi, je pense que c'est un gardien de but qui est en manque de confiance présentement.
OK. Est-ce que Price versus le Canadien, tu sais, tu dis, il n'est pas aussi. Comment je dirais ça? Tu sais, devant lui, là, Davidson puis Ben, ce soir-là, c'était tough, là. Tu sais, c'était une paire qui avait l'air de jouer sa Rivière-Saint-Charles à l'époque où on faisait une patinoire ici à Québec. Il n'y a pas de bande, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de ligne, puis on joue un peu n'importe comment. Ça ressemblait à ça, cette paire de défenseurs-là. Mais Price, dans les dernières années, il me semble que l'équipe devant lui était meilleure. Je dis pas que samedi, ils n'ont pas bien joué, je te rejoins. Mais il va falloir qu'il compose avec une défensive très ordinaire, contrairement à ce que Marc Bergevin a dit au tournoi de golf, là.
C'est ce que je vois, moi aussi. Moi, la question que je me pose par rapport à ça, c'est que lui, il fait des miracles. Il fait des miracles depuis quoi? 3-4 ans, mettons? 3 ans, on va dire? Il fait des miracles pour cette équipe-là. En série régulière. En série éliminatoire, ça, c'est un autre débat, c'est une autre discussion.
Hey, Louis, je sais pas t'es où, mais il faut pas que tu bouges parce que je perds certains mots.
Tu perds certains mots, je suis dehors, sorti de l'aréna pour m'assurer que tu m'entends bien. Est-ce que je suis pas pire aussi, là?
Okay. Là, c'est mieux, mais il faut pas que tu bouges, puis il faut qu'il. Ouais, c'est ça. Les mots okay. Du cellulaire, hein, tu sais comment est-ce que c'est?
Ouais. Ce que je disais, c'est que je me demande si, pour lui, c'est pas, ça devient pas un peu tannant, fatigant, de voir que si toi, t'es pas spectaculaire à tous les soirs, c'est difficile de gagner. Tu regardes les autres clubs élites, puis tu dis, crime, il me semble qu'on n'a pas ça, nous autres. Puis t'as raison, la défensive, là, jusqu'à preuve du contraire, c'est une défensive qui est très difficile, qui est poreuse. Et puis, Claude Julien va devoir faire des miracles pour essayer de faire en sorte que l'équipe va pouvoir, soir après soir, compétitionner contre les autres équipes. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec Jordy Ben. Je l'ai trouvé bon en série, je l'ai trouvé bon quand il est arrivé l'année passée. Il faut dire que ça a été difficile quelques matchs contre les Rangers. Mais Jordy Ben, c'est comme s'il y a du ciment d'impatent depuis le début de l'année. C'est très difficile. Un gars comme Davidson, je ne l'haïs pas, mais c'est un septième défenseur. C'est-tu un problème? Il y a certainement un problème actuellement. Cela dit, je me rappelle, bottom line, là, je le répète, mais c'est important de le dire. Dans le vestiaire, dans l'équipe, il ne pèse pas sur le bouton de panique. Il est beaucoup trop tôt. Il est beaucoup, beaucoup trop tôt. Mais la réalité, c'est que nos yeux, que ce soit au camp d'entraînement, depuis le début de la saison, ils nous disent que...
Il n'y a rien de convaincant. Tu as bien raison. C'est sûr que Jordy Ben, quand tu donnes Greg Patterin, tu peux pas t'attendre à recevoir Bobby Orr. Il avait bien joué en arrivant. Je te le donne.
Il y a juste une chose. C'est que Jody Benn était quand même un gars qui était rayé de l'alignement régulier avec les Stars. Là.
Exact, il faut le dire. Exactement.
S'il était rayé là-bas, oui. Ça veut dire qu'à Montréal, tu peux pas t'attendre non plus à ce qu'il soit dans ton top 4.
C'est ça.
Ou 5e, puis que tu aies un défenseur qui va être bon tout le temps.
Exactement.
S'il était rayé là-bas, il y a une raison pourquoi il était rayé là-bas. Puis je veux juste apporter une petite précision, Ben, là. Parce que le monde sont peut-être tannés de dire. Mais là, arrêtez de dire qu'il est encore tôt. La raison, je dis ça, là.
Non.
C'est qu'on est encore au mois d'octobre, puis regarde le classement tout de suite, là. Qu'est-ce que regardez présentement, là? Tu l'as dans les yeux.
Oui.
Les Red Wings et les Trois sont dominants présentement. Est-ce que tu t'attends à ce que ce soit comme ça toute l'année?
Non.
T'as des clubs comme ça, les Golden Knights de Vegas. Tu sais, il y a plusieurs équipes qui connaissent un début de saison exceptionnel. L'Avalanche du Colorado, il faut être en 2010. Pas sûr. Vont continuer d'être aussi bons.
Oui, mais ça ne veut pas dire que le Canadien. Oui, mais en même temps que tu dis ça, puis je te rejoins, il y a des équipes qui ont un gros début, puis ça ne durera pas 82 matchs. Mais ça ne veut pas dire que parce que le Canadien est mauvais, ça va se replacer, puis ça va bien aller, puis
non.
C'est une équipe de premier plan. Il faut faire attention.
Non, exactement. Mais tu sais, tout comme tu parlais de Gatineau tout à l'heure, elle faisait référence au speech de Georges Saint-Pierre. Et dire, écoute, est-ce que Gatineau peut en donner plus? Oui. Est-ce qu'il doit en donner plus? Oui. Est-ce qu'il joue avec assez de cœur? Non. Est-ce qu'il est tout le temps à la hauteur des attentes? Absolument pas. Mais tu sais, au même titre que ce qu'on vient d'expliquer, qu'il va devoir... écoute, il y a des choses qui vont devoir se passer. Gatineau, c'est pas un joueur de quatrième trio non plus. Alors là, on essaie de casser des gars, on essaie d'envoyer des messages, on essaie d'implanter un système, on essaie de faire comprendre à certains joueurs, comme un gars comme tu sais, des joueurs qu'on leur donne peut-être beaucoup plus de cordes qu'on devrait. Ça, c'est Claude Julien qui est en train de placer ces choses, qui fait confiance aux vétérans. Là, maintenant, assez vite, là, si ça ne s'adresse pas, là, Claude Julien va devoir faire le job qu'il est capable de faire et qu'il a fait très bien partout ailleurs. Il va devoir commencer à compter et dire, OK, toi, mon petit vétéran, je t'ai donné toutes les chances au temps d'entraînement, je t'ai donné 3 semaines du début de la saison, à date, ça ne fonctionne pas. Alors là, il faut que je coach et je vais prendre des décisions dessus.
Alex Galchenyuk a un talent. Certains disent qu'il a tout, d'autres disent qu'il a presque tout. Il a dominé dans le junior, choix numéro 3 son année de repêchage. Mais beaucoup, beaucoup de rumeurs, et toi, tu es à Montréal, t'en entends 16 fois plus que moi, beaucoup de rumeurs sur des problèmes hors glace. À quel moment, si jamais ça se concrétise, et c'est vraiment vrai, ces rumeurs-là, à quel moment ça va sortir? Seulement au moment où Galchenyuk va quitter Montréal?
Mais écoute, il faut comprendre que ça, c'est toujours extrêmement délicat, là. Les histoires de rumeurs et de problèmes en glace, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On en a beaucoup entendu.
Tu les entends
aussi?
Oui,
je les entends. Il y a des choses qu'on peut pas trop dire non plus parce que c'est quand même la vie privée des personnes, des individus. Alors là-dessus, je te dirais que c'est un terrain un peu glissant. Il faut faire extrêmement attention. Ce que je peux te dire, c'est que l'entourage de Galchenyuk, les gens qui le représentent, ces choses-là, font tout pour l'aider, font tout pour s'assurer que lui, il est prêt à jouer au hockey. Maintenant, il y a eu des problèmes dans le passé. Il y a eu beaucoup de rumeurs, c'est-à-dire que Ange Blanche, ce gars-là, c'était un peu problématique. Il était peut-être pas toujours focusé, toujours prêt à travailler, toujours prêt à jouer. Est-ce qu'il a mis un petit peu plus d'ordre? Est-ce qu'il a mis des priorités à la bonne place? C'est une très bonne question. La saison a commencé. Moi, j'ai pas les réponses. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a des rumeurs. Mais à un moment donné, à Montréal, des fois, les choses peuvent être exagérées. Puis des fois aussi, il y a une raison qu'on entend les rumeurs aussi qui sont aussi fortes que ce qu'on entend actuellement. C'est peut-être parce qu'on veut que tout le monde comprenne que ce gars-là, il est peut-être pas toujours sur un job. À un moment donné, il faut en prendre, il faut en laisser, par contre.
OK, il faut en prendre, il faut en laisser, mais il y a peut-être du vrai aussi là-dedans. On peut pas le confirmer pour l'instant.
Je pense qu'il y a aucun doute. Je pense qu'il n'y a aucun doute que c'est peut-être pas un servant de messe, là.
Okay.
Il n'a pas toujours été parfait, mais je pense qu'il sait une chose, Alex Galchenyuk, qui est très conscient d'une chose bien importante. Sa carrière, il a un contrat en poche, comme c'est là, mais il est en train de l'échapper. Puis le monde autour de lui essaie de lui faire comprendre que s'il ne se réveille pas bientôt, il va non seulement partir de Montréal, mais il pourrait devenir un joueur brûlé. C'est très dangereux.
OK. Pour faire un parallèle avec la musique, mettons, il serait plus facile à comparer à Éric Lapointe qu'à Grégory Charles.
Oui, exactement.
OK, parfait.
Exactement. C'est pas qu'il a dit, mais tu viens de comprendre exactement.
OK, on se comprend bien. Est-ce que tu as l'impression, quand le Canadien échange Nathan Beaulieu dans sa division contre seulement un troisième choix, quand je dis seulement, c'est que Nathan Beaulieu, aime ou aime pas, a quand même les habiletés pour jouer régulier dans cette ligue-là, est-ce que tu as l'impression que le Canadien, en faisant cette transaction-là, s'est dit, on va enlever le compagnon de... soirée nocturne à Galchenyuk, ça va l'aider. On va aider notre numéro 27 en échangeant Beaulieu à une autre équipe.
Probablement, parti, oui. Oui, c'est sûr. Des fois, tu essaies de... Puis, écoute, là, je pourrais te nommer, écoute, des histoires que j'ai entendues au fil des années sur d'autres équipes aussi, où certains joueurs sont échangés. Des fois, tu te poses la question pourquoi. C'est parce qu'on trouve que je n'ai trop avec tel joueur ou tel joueur. Et c'est des histoires, là, je pense juste comme ça, j'en ai 5 ou 6 avec 5 ou 6 différentes équipes, que c'est un peu la situation. Il n'y a aucun doute que, probablement qu'on trouvait que Nathan Beaulieu, c'est un joueur qui n'était pas assez mature. En fait, je peux te confirmer que c'est un peu ça qu'on pensait. Et l'entourage de Beaulieu disait, on espère que la transaction à Buffalo va l'aider à se réveiller un peu. Alors, il n'y a aucun doute que c'était en partie ça. Mais c'est drôle parce que la transaction de Beaulieu fait aussi en sorte que là, on fait extrêmement attention avec Nathan, puis je m'explique. Là, on n'a rien eu en retour essentiellement pour Beaulieu, right? On est d'accord là-dessus?
Oui.
Soit 3e ronde pour un gars qui a quand même un certain potentiel, puis qui, c'est sûr, il est capable de jouer à tous les joueurs dans la Ligue nationale d'hockey. Est-ce qu'il va faire des erreurs? Oui. Il a fait une bévue monumentale la semaine passée pour les fans de Buffalo. Et après la rencontre, il a fallu qu'il fasse son mea culpa parce qu'il a fait dur. Il n'était pas présent. C'est comme s'il ne voulait pas avoir la rondelle. Il était tellement mauvais. OK? Ce qui n'est pas parfait, c'est pas ce que je veux dire. Mais la réalité, c'est que le Canadien se fait dire aussi, est-ce que Beaulieu ne pourrait pas aider le Canadien quand on regarde la défensive actuellement?
Ben oui.
La réponse, c'est sûr.
Oui.
Même Tandon que tu as mentionné tout à l'heure pour aider le Canadien. Yemelin pour aider le Canadien. Markov pour aider le Canadien. Tout ça pour dire pourquoi c'est relié à un gars comme Galchenyuk, c'est qu'à un moment donné, si tu fais juste échanger tes joueurs qui sont supposés être bons, des choix de première ronde, et tu as 0 en retour, à un moment donné, tu te retrouves avec un club de la Ligue nationale, de la Ligue américaine qui joue dans la Ligue nationale. C'est ça le problème avec le Canadien. Alors, Beaulieu, ils l'ont laissé partir pour rien. Peut-être qu'ils voulaient l'éloigner aussi de Galchenyuk, c'est très possible. Mais là, ils sont rendus à un point où ils ont besoin d'aller chercher quelque chose en retour de Galchenyuk si jamais ils veulent l'échanger.
Je sais que le DG marque pas des buts, mais c'est lui qui est le grand patron hockey d'une équipe. Quand on regarde depuis le repêchage ce qu'il a fait comme mouvement de personnel, il a pas réussi à s'entendre avec Radulov, il a pas réussi à s'entendre avec Markov. Il les a remplacés par Alechemski puis Mark Streit. Alechemski, samedi soir, patinait sa bottine au Centre Bell. Puis Mark Streit, aujourd'hui, on a prononcé le divorce. Il va falloir que le DG... probablement qu'il est déjà sur la table à dessin, mais il va falloir qu'il nous sorte un dessin, peut-être pas un chef-d'œuvre, mais il va falloir qu'il sorte un dessin de la table à dessin bientôt, là.
Ben, Chadel, je te dirais qu'il est peut-être pas loin de ça. C'est sûr qu'il y a une énorme pression, puis on en a parlé avant le début de la saison. Je veux dire, selon moi, je pense que Marc Bergevin, après 5 ans, il y a quoi à vendre aux partisans? C'est quoi ton pitch, là? Maintenant, t'as fait dire aux partisans, tu dis, regardez, on s'est approché. Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé pourquoi? Parce que l'équipe est en déroute. On venait de rater les séries éliminatoires. Et moi, je suis arrivé ici avec un objectif. C'était quoi? C'était gagner la Coupe Stanley. Es-tu plus près de la Coupe Stanley aujourd'hui que tu l'étais il y a 5 ans? Est-ce que la fenêtre est fermée à Montréal? C'est la question que beaucoup de gens se posent, et c'est légitime, parce que tu regardes Austin Matthews, tu étais là, tu l'as eu. Tu regardes Austin Matthews, c'est un game breaker. C'est le gars qui, dans des grands moments, est capable de te marquer des buts importants. Puis samedi, je m'excuse, c'était un grand moment. Pourquoi? Parce qu'il venait d'entendre 14 d'affilée.
Ouais.
On venait d'en entendre parler.
Ouais.
Ils ont changé d'équipe. Et puis, la première victoire qui est partie de la séquence, c'est presque un changement du tout au tout par rapport à ce qu'on a vu samedi. C'est un moment important parce que les Maple Leafs, ils veulent se dire, si on est capable de devenir une équipe élite, il faut mener, mettre fin à ces séquences-là, il faut gagner dans le building ailleurs, sur la route, il faut être capable de gagner contre des équipes qui nous donnent chez leur tombe.
Ouais.
Et même si je dis, je m'en occupe à soir. On tire l'arrière, je m'en occupe, je vous ramène dans le match. Il faut gagner le match, je vais m'en occuper. Puis c'est comme ça qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Alors, c'est qui le game breaker pour le Canadien? Est-ce que c'est Carey Price? Est-ce que c'est Max Pacioretty? Est-ce que t'en as assez pour rivaliser avec les Maple Leafs ou avec les autres clubs élites? Moi, je pense que personnellement, actuellement, la réponse, c'est non. C'est un non facile. Le Canadien n'est pas là.
Ben d'accord.
Ils ont de l'argent à dépenser. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Cet argent-là, là, tu vas cogner aux portes, tu vas appeler les autres directeurs généraux, ils vont devoir venir à 100 000 à l'heure et ils vont essayer de faire en sorte que tu vas mal paraître dans une transaction. Il faut que tu donnes beaucoup pour avoir très peu. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais là, les décisions de personnel et tout ça, il y a congédié un entraîneur. Il y a énormément de pression sur ses épaules actuellement, Marc Bergevin. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est en train de bâtir une équipe comme les Penguins de Pittsburgh, une équipe comme les Blackhawks de Chicago, une équipe qui est bâtie sur la vitesse, sur le caractère, sur les habiletés, on est en train de bâtir une équipe comme les Kings de Los Angeles il y a quelques années où on se dit, nous autres, on ne sera pas intimidés. Nous autres, on est gros, on a un bon goaler, puis on va gagner un match 2-1 à la bonne vieille façon. Moi, je pense que la méthode qui fonctionne actuellement, c'est la méthode des Penguins de Pittsburgh. C'est facile à dire, ils viennent de gagner deux d'affilée. Mais je me pose la question si, à l'interne, la philosophie qu'on a, c'est quoi exactement? C'est quoi les joueurs qu'on aime? C'est quoi notre blueprint? C'est quoi le modèle de joueur qu'on veut? Je me questionne des fois sur les décisions qu'ils prennent par rapport à ça. Puis j'essaie pas de faire mon corps arrière.
Non, je comprends. Non, c'est une très bonne réflexion. Et gros, merci, Louis.
On s'en parle lundi, Dan.
À bientôt. Bonne soirée. Louis-Jean, à qui on parle chaque lundi dans l'avant-match.